La créance.
En dépit de la courtoisie d'Albizzi qui lui offrait de demeurer quelques jours, Guccio quitta Londres dès le lendemain assez mécontent de lui-même. Il avait pourtant parfaitement rempli sa mission et sur ce point ne méritait que des éloges. Mais il ne se pardonnait pas, lui, libre citoyen de Sienne, et qui par là se jugeait l'égal de tout gentilhomme sur la terre, de s'être à ce point laissé troubler par une présence royale. Car il aurait beau faire, il ne pourrait jamais se cacher que la parole lui avait manqué lorsqu'il s'était trouvé devant la reine d'Angleterre, laquelle ne l'avait même pas honoré d'un sourire. « C'est une femme comme une autre, après tout. Qu'avais-je donc à si fort trembler ?» se répétait-il avec humeur. Mais il se disait cela alors qu'il était bien loin de Westminster. N'ayant pas comme elle allait rencontrer de compagnons, il cheminait seul, remâchant son dépit. Cet état d'esprit ne le quitta pas de tout le voyage et ne fit même que s'exaspérer à mesure que les lieux passaient. Parce qu'il n'avait pas reçu à la cour d'Angleterre l'accueil qu'il escomptait, parce qu'on ne lui avait pas, sur sa seule mine, rendu des honneurs de prince, il s'était fait l'opinion, lorsqu'il remit le pied en France, que les Anglais constituaient une nation barbare. Quant à la reine Isabelle, si elle était malheureuse, si son mari la bafouait, elle ne recevait là qu'à proportion de son mérite. « Comment, on traverse la mer? On risque sa vie pour elle? Et l'on n'est même pas plus remercié que si l'on était un valet ?» Ces gens-là ont de grands airs appris, mais point de manière de cœur, et ils rebutent les meilleurs dévouements. Ils n'ont point à s'étonner d'être si mal aimés et si bien trahis. La jeunesse ne renonce pas aisément à ses désirs d'importance. Sur les mêmes routes où, 4 jours plus tôt, il s'était cru déjà ambassadeur et amant royal, Guccio se disait rageusement « J'aurai ma revanche ». Comment, sur qui, il n'en savait rien, mais il lui fallait une revanche. Et d'abord, puisque le destin et le dédain des rois voulaient le maintenir dans sa condition de Lombard, il allait se montrer un Lombard comme on en avait rarement vu. Un banquier puissant, audacieux et retors, un prêteur impitoyable. Son oncle l'avait chargé de passer par le comptoir de Naufles pour recouvrer une créance. Eh bien, les débiteurs ignoraient quelle foudre allait s'abattre sur leur dos. Prenant par Pontoise pour bifurquer à travers l'île de France, Guccio arriva à Naufles-le-Vieux le jour de la Saint-Hugues. Le comptoir Ptolemei occupait une maison proche de l'église sur la place du bourg. Guccio y entra d'un pas de maître, se fit montrer les registres, houspilla son monde. À quoi le commis principal était-il bon? Faudrait-il que lui, Guccio Baglioni, propre neveu du chef de la compagnie, se dérangeât pour chaque créance en souffrance? Et d'abord, qui étaient ces châtelains de Cresset qui devaient 300 livres? On le renseigna. Le père était mort. Oui, cela Guccio le savait. Et puis, il y avait 2 fils, 20 et 22 ans. Que faisaient-ils? Ils chassaient. Des fainéants, évidemment. Il y avait aussi une fille, 16 ans, laide certainement, décida Guccio. Et une mère qui faisait marcher la maison depuis le décès du sire de Cresset. Des gens de bonne noblesse, mais sans un sou vaillant. Combien valait leur château, leur champ? 800, 900 livres. Ils avaient un moulin et 30aine de serfs sur leur terre. Et vous n'arrivez pas à les faire payer? S'écria Guccio. Vous allez voir, avec moi, si cela va durer longtemps. Comment s'appelle le prévôt de Montfort? Portefruit? Très bien. Si ce soir ils n'ont pas remboursé, je vais trouver le prévôt et je les fais saisir. Voilà. Il se remit en selle et partit au grand trot pour Cresset, comme s'il allait enlever une place forte à lui tout seul. Mon or ou la saisie, mon or ou la saisie, et ils iront s'adresser à Dieu ou à ses saints. Cresset, à 1/2 lieue de Naufles, était un hameau bâti à flanc de val au bord de la Mauldre, rivière qu'on pouvait franchir d'un bon saut de cheval. Le château qu'aperçut Guccio n'était en vérité qu'un petit manoir assez délabré, sans fossé d'enceinte puisque la rivière lui servait de défense, avec des tourelles basses et des abords boueux. Tout y montrait la pauvreté et le mauvais entretien. Les toitures s'affaissaient en plusieurs places, le pigeonnier paraissait peu garni, les murs moussus avaient des lézardes et les bois voisins présentaient des saignées profondes. « Tant pis, mon or ou la saisie ?» se répétait Guccio en passant la porte. Mais quelqu'un avait eu la même idée un peu avant lui et c'était précisément le prévôt portefruit. Dans la cour, il y avait grand remue-ménage. 3 sergents royaux, bâtons à fleur de lys en main, affolant de leurs ordres quelques serfs guenilleux, faisaient rassembler le bétail, lier les bœufs par couple et monter du moulin des sacs de grains qu'on jetait dans un chariot de la prévôté. Les cris des sergents, les galopades des paysans terrifiés, les bêlements d'une 20aine de brebis, les cris de la volaille produisaient un beau vacarme. Personne ne se soucia de Guccio. Personne ne vint lui prendre son cheval, dont il attacha lui-même la bride à un anneau. Un vieux paysan, passant auprès de lui, dit simplement
« Le malheur est sur cette maison. Le maître serait présent qu'il en crèverait une deuxième fois. C'est pas justice !»
La porte de la demeure était ouverte, et il en venait les éclats d'une violente discussion.